Nous sommes mardi 29 octobre 2013 et vous écoutez un épisode spécial de Proxy Jeux. Proxy Jeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. On vous a fait un débrief du salon des Sommes tous les soirs et ce soir, on va vous parler du dernier jour passé sur le salon pour vous faire une synthèse de notre salon. Bonjour Jérémy.
Bonjour Olivier.
Comment vas-tu ?
Bah ça va, bien rentré, un peu reposé, ça fait du bien.
Pas trop fatigué ?
Bah curieusement, j'étais plus fatigué pendant ma journée de boulot hier que alors que j'avais dormi 8 heures que quand on était sur le salon avec des nuits de 4 heures, je sais pas pourquoi.
C'est le changement
d'excitation du salon.
On va vous donner une petite précision. On est en train d'enregistrer par Skype, donc on a une petite latence et c'est moins facile que d'habitude. Donc on voulait vraiment vous donner notre vision de la quatrième journée, puis faire une petite synthèse de Essen. Donc bah allons-y. Allons-y. Qu'est-ce que t'as fait le quatrième jour, Jérémy ? Dimanche matin.
Dimanche matin, jour du départ.
Ouais.
Enfin, dimanche, jour du départ, donc un peu plus chaud, un jour il faut préparer déjà sa valise. En général, on a fait déjà pas mal des achats le samedi pour parce qu'on doit plier la valise et la poser dans un coin, ensuite dans la voiture ou à l'hôtel avant de repartir. Donc normalement, peu d'achats le dimanche, mais on peut pas s'empêcher de craquer. T'as craqué, toi, Olivier, sur un jeu le dimanche matin, en dernière minute ?
Alors, j'ai cherché. J'ai pas mal... Je me suis dit jusqu'au dernier moment, qu'est-ce que je pourrais bien trouver ? Et en fait, j'ai rien trouvé. Tant mieux, j'ai tenu mes 4 ou 5 jeux dans le salon et c'était bien comme ça. J'ai failli prendre le jeu avec les cancrelats.
C'est quoi ça ?
C'est un jeu, tu sais, où tu as des X-Bugs qui doivent sortir d'un corridor.
Kakir la cac en allemand et je ne sais plus en français comment ça s'appelle. Ouais.
C'est ça, mais sauf que c'est pas un jeu, enfin c'est un jouet plus qu'un jeu, donc j'ai pas pris.
Cafard panique, non, un truc comme ça, je pense. Ouais, non, c'est plus un jouet, effectivement.
Et ça se retrouvera après dans toutes les bonnes boutiques, donc voilà.
Ouais, parce que même Ravensburger France le prévoit, donc il n'y a pas de souci.
Et sinon, S-Evolution, c'était pas le dimanche.
Non, on l'a testé le samedi, ça malheureusement, j'en ai encore.
J'essaie de retrouver en fait par rapport aux photos que j'ai prises. Donc.
Moi, je peux dire rapidement, le dimanche, j'ai essayé de rentrer à 9h, parce que, comme d'hab, comme mes journées sont courtes, une heure de prise le matin, j'en profite. Mm-hmm. Ce que j'ai constaté, c'est qu'entre 9h et 10h, on voit qu'on est dimanche, que les exposants sont fatigués, parce que jusqu'à presque 10h moins 20, c'est assez vite, quoi. La plupart des stands sont restés fermés. J'espérais faire des achats avant, justement, et j'ai pas pu, parce que tout le monde est fermé, tout le monde se repose et KO, malgré le changement d'heure, qui était d'ailleurs bénéfique, mais, et du coup, voilà, le salon ouvre à 9h50, par contre, et à nouveau, déverse le flot de personnes. Voilà, je pense que c'est vraiment une fatigue générale le dimanche chez les exposants
ouais,
qui va durer toute la journée.
Il faut pas se voiler la face, hein. C'est 4 jours de salon, c'est 4 jours éprouvants pour les exposants, c'est 4 jours où ils travaillent la journée et puis où ils ont des contacts avec plein de gens le soir, arrosés parfois, donc c'est une vraie preuve quoi, pour eux comme pour nous.
Et ils plient le dimanche soir, ils plient les stands encore après.
Ouais. Donc moi je suis rentré un peu plus tôt et puis je me suis fait expliquer Hugo. Ça, c'était un jeu qui était dans le fair play.
Ouais, et qui était au bout du hall 3. Ouais,
ouais, qui m'a fait penser en fait à Crazy Lab, le jeu qu'a acheté Dédé.
Ouais.
En fait, c'est un jeu avec une petite planche individuelle, avec des fermiers. C'est un jeu de plis comme Crazy Lab, où tu as des couleurs comme Crazy Lab, et où tu vas gagner ou pas des fermiers, et en fonction de... des plis que tu vas faire, tu as des couleurs qui peuvent être positives et des couleurs qui vont être négatives. Et en fait, tu as 5 emplacements sur ton plateau individuel que tu pourras ou non remplir avec des cartes et que tu vas pouvoir valoriser ou pas. J'ai pas trouvé ça extraordinaire. Je suis pas très jeu de cartes, donc c'est peut-être aussi pour ça que j'ai pas accroché, mais ça m'a paru. Un jeu de plis, quoi, un peu original avec le gain des fermiers que tu décorelles du gain du tas de cartes de couleur, mais pas, je sais pas ce qu'il fait dans le Fairfield Suit, mais bon, voilà. Ça, c'était ma découverte. On se l'est juste fait expliquer, j'ai pas fait de partie, mais ça m'a pas emballé.
Tu t'es dit que ça suffisait à l'explication, ouais. Bah, c'est peut-être après, ils ont peut-être des scouts hein, qui sont partis pour eux. Hein.
Ah oui, tout à fait. Après, quand le salon a été ouvert, t'as fait quoi?
Ben, je suis allé sur le stand Yellow. En fait, il y avait Rick Martin qui était en train de filmer l'explication de la règle à nouveau de Zombie 15. Il l'a déjà fait, mais bon, je sais pas. Avec Nicolas, du coup, qui était arrivé sur le stand entre temps. Et lui, il avait oublié le changement d'heure. Il était arrivé à 8h, en fait. Et oui, il y en a toujours qui se font avoir.
Ah, bah oui, j'ai fait ça dans mon temps. Oui. Et puis en plus, nous.
J'ai pensé à toi.
C'est qui Eric Martin?
Eric Martin, c'est une des personnes qui anime Board Game Geek. Je sais pas si c'est lui qui en est le plus derrière. Je sais pas comment marche l'équipe BGG, mais voilà. C'est une des personnes. Ils ont pas mal filmé, je pense, sur le salon. Il a juste filmé l'explication de règles. Je sais pas, je verrai ce que ça donne, mais. Bref, c'est juste pour l'anecdote. Et après, j'ai expliqué le jeu jusque vers, je crois, 13h, un truc comme ça. Et après, après, j'ai voulu faire un petit peu une exploration du salon.
D'accord, là, attends, parce que moi, je vais raconter ce que j'ai fait avant, et puis on recollera, parce que je l'ai fait en partie avec toi. Moi, j'étais, on s'est posé un petit peu aux tables de Yellow, et on a.
Ouais, il y a ta photo sur Facebook.
Pardon?
Il y a votre photo sur Facebook, vous êtes en train de jouer.
Oui. Tout à fait. Et donc, on a exploré la gamme petits jeux de Yellow, ces trois petits cochons, et puis Baba Gaga. Je peux te laisser regarder de ton côté un peu le nombre de joueurs, tout ça, les auteurs.
Ouais, je peux faire ça.
Les trois petits cochons, c'est un jeu que je trouvais très très bien. C'est encore une fois un Yahtzee, c'est-à-dire qu'on va lancer des dés, et puis en fonction du résultat des dés, on va pouvoir acheter trois morceaux de maison, on va pouvoir acheter une porte, des fenêtres ou un toit. Il n'y aura qu'un seul toit, il n'y aura qu'une seule fenêtre, je crois que c'est comme ça, peut-être que je me trompe, mais c'est comme ça qu'on m'a expliqué. Et autant, pardon, un toit, une porte et autant de fenêtres qu'on veut. On peut ne pas mettre de porte, on peut ne pas mettre de fenêtre, mais c'est le toit qui est le plus important. C'est-à-dire quand tu poses ton toit, tu termines ta fenêtre. Sur les dés, on a soit des loups, soit des fenêtres, soit des portes, soit des toits. Faire deux loups nous permet de souffler sur la maison des autres. Et puis, avoir le même dé en double ou en triple ou en quadruple nous permet d'acheter des morceaux de maison qui ont deux, trois ou quatre têtes de cochon dessus. Je crois que ça va jusqu'à cinq, même peut-être pour la plus chère des pièces. Et donc, on va pouvoir acheter des morceaux de maison en chaume, des morceaux de maison en bois, des morceaux de maison en brique. Et l'idée qui est rigolote, c'est que si tu fais deux loups, bah, tu vas pouvoir souffler sur une petite une rondelle, enfin une roue, et puis tu vas faire tourner une roue en fait sur un petit morceau de carton, divisé en six. Tu as trois quartiers de la rondelle qui vont définir un morceau en chaume, deux quartiers de la rondelle qui vont définir un morceau en bois, et seulement un quartier de la rondelle qui va définir une maison en brique. Donc il y a plus de chances que tu puisses souffler sur une maison en brique, il y a plus de chances que tu puisses souffler sur une maison en chaume pour la détruire que sur une. C'est plus difficile de casser une maison en brique. Le nombre de petits cochons que tu as sur les morceaux de maison, c'est le nombre de points que tu vas avoir à la fin de la partie si tu réussis à finir ta maison. En fin de compte, ça sera plus cher, c'est une prise de risque. Tu t'achètes les maisons en briques plus chères, mais elles durent plus longtemps. Elles sont plus difficiles à monter, mais après, elles restent là. J'ai trouvé ça très bien. On a été quatre, on a tous les quatre accrochés. C'est très simple, c'est vraiment bien fait, et ça c'est un truc que je vais rentrer chez moi, parce que avec les enfants, moi c'est les âges c'est 5 à 11, et tout le monde va s'amuser en fait, tout le monde va pouvoir y jouer et va s'amuser. T'as des contrats aussi, le premier qui finit sa maison, le premier qui finit trois maisons, plus de pots de fleurs, il y a des pots de fleurs sur certaines tuiles. Donc avec le plus petit on enlèvera les contrats, avec les plus grands on pourra les mettre, et ça sera pas mal.
Ouais, j'ai eu des très bons échos, effectivement. Il a pas mal, j'ai vu qu'il avait pas mal tourné. Forcément, j'étais aux premières loges pour le voir tourner et être apprécié par les gens. J'ai l'impression que c'est une petite collection qui a l'air pas mal. Hein. Je donne là en même temps les caracs.
Ouais.
Trois petits cochons, c'est un jeu de Laurent Pouchin. Donc chez
Yellow.
Chez Yellow, ouais, c'est via le studio Purple Brain. C'est pour 2 à 5 joueurs à partir de. C'est quoi, 5 ans? Ça me paraît un peu jeune.
Non, c'est bon.
7 ans.
Ah, c'est ouais. bon, du moment que tu enlèves les contrats, en fait.
Ouais. Et c'est pour 20 minutes environ, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Et deuxième jeu, en fait, c'est Baba Yaga. Donc, toujours dans la même collection, une boîte qui ressemble à un livre. Alors là, il présente ce jeu comme un memory dynamique. Alors imagine-toi un carré de 5 tuiles sur 5, avec des tuiles comme pour un memory, tu vas devoir retourner pour faire des contrats. Les contrats étant des sorts, et les sorts te rapportant des petits avantages, mais c'est pas le cœur du jeu. Le cœur du jeu, c'est qu'en fait, pendant que toi, tu vas être en train de soulever des tuiles, de retourner des tuiles pour trouver tes ingrédients, les autres joueurs vont faire évoluer Baba Yaga sur le plateau. Enfin, le plateau constitué par 5 tuiles par 5. Donc, tu mets tes tuiles en carré. Sauf que les tuiles du milieu, ce n'est pas les tuiles que tu vas devoir retourner, c'est une sorte de chemin sur lequel on va faire circuler chaque joueur qui ne participe pas, qui n'est pas le joueur actif et qui cherche ses cartes. Va déplacer d'une tuile Baba Yaga à tour de rôle. Donc c'est assez frénétique. On bloque le passage de, on bloque les mains de l'autre parce qu'on l'empêche de leur tourner les tuiles. Et au final, on était quatre. Et il y en a qu'une qui a tiré son épingle du jeu. Les autres, on a été lamentables. Donc ça a été bizarre quoi comme jeu. Je suis plus. Je vais y rejouer. Mais il faut absolument que je le réessaye parce que je sais pas quoi dire, quoi. Et surtout, il faut que je le réessaye avec les enfants parce que ça marche pas comme ça, quoi. Enfin, avec les adultes, ça marchait pas. Il y en a une qui nous a dépouillés, quoi.
T'as pas eu la même bonne impression que les trois petits cochons?
Non. J'ai trouvé que c'était un peu comme Going, Going, Gone, Going, Going, Gone, en fait. Que tu es en train de faire le truc dans l'urgence, que tu es en train de chercher tes ingrédients dans l'urgence, que, et certes, sur les cartes, enfin sur les tuiles, c'est pas comme dans un memory classique, quand on a expliqué, on nous a dit, voilà, regardez bien les tuiles et vous verrez que l'ingrédient que vous cherchez, il y a des indices sur la tuile. Tu te dis, mais c'est quoi, c'est pas un memory, si on peut retrouver les ingrédients sur la tuile. Mais non, c'est juste obligé, parce que sinon, t'arrives pas, quoi. Bref, à retenter. Et
Okay.
puis, c'est un petit peu les seuls jeux auxquels on a joué, parce qu'après, on a mangé. Ce que t'as vu, ces frites, c'est ces sortes de pommes de terre enroulées sur un bâton.
Ouais, j'ai vu ça, Judith, elle en avait là, le vendredi. Du coup, j'en ai demandé, je crois que c'est Dédé et Merlin qui m'en ont acheté deux le dimanche, justement, le dimanche midi. Mais on n'a pas réussi à les finir.
Ouais, enfin moi ça m'est resté sur l'estomac quand même un bon moment dans l'après-midi. J'avais vraiment plus faim et vraiment c'est un poil écœurant quand même.
Il y en avait qui passaient sur le stand et quand j'étais en train de manger, qui me demandaient où est-ce que je l'avais trouvé. Donc vraiment, à mon avis, c'était finalement peut-être le plus gros succès du salon. C'était pas un jeu, c'était ces sortes de sauces de patates tortillons. Je mettrai une photo sur le billet, j'en ai quelques-unes. Ça sera l'occasion que vous découvriez ça. Ça fait partie de la gastronomie allemande, donc on ne connaissait pas encore. Voilà, comme quoi on peut toujours découvrir de nouvelles choses.
Non, puis après on s'est retrouvé un peu pas dépourvu, mais on revient sur le début de la conversation, c'est-à-dire que tu sais pas trop aller. Enfin, moi je cherchais pas forcément un jeu à acheter, mais tu sais, j'aime bien. L'année dernière, j'avais acheté Riff Raff. C'était
Ouais.
le, tu sais, la boîte que t'achètes le dernier jour que t'es content de ramener, et puis là c'était une bonne affaire. Et là rien, donc bon voilà. Donc on a dit au revoir, on a pris le temps de passer voir les gens qui nous avaient accompagnés tout au long du salon, et puis on est rentré tranquille par notre avion.
Ouais, moi j'ai profité, en fait, j'ai quitté mon stand vers pas quelle heure c'était, 13h et 13h30 facilement. Et j'ai fait un tour, je suis allé voir le labyrinthe du Pharaon qui m'avait été conseillé par Suzelle des Ludochons la veille. Écoute, je l'ai acheté, il leur restait des tonnes de boîtes. J'étais avec Berlin qui en a aussi pris un, ils étaient tout contents qu'on leur en prenne. Ils désespéraient, je pense, de vendre leur jeu. En fait, c'est l'éditeur, c'est Crimson, je sais plus quoi, un truc comme ça. Enfin, un éditeur qui a jamais fait des bons jeux par le passé, enfin, en tout cas, moi qui m'a jamais rien laissé de. L'impérissable, donc en fait, l'éditeur qu'à la fin tu ne vas même plus voir. Il y a 100 d'autres stands, et donc là, il faut vraiment juste que tu aies une recommandation pour aller voir. Le concept du labyrinthe du pharaon, c'est une sorte de take it easy. C'est-à-dire que chacun, en fait, va construire son plateau individuel. Il n'y a pas d'interaction entre les joueurs, par contre. Et en fait, le but, c'est de construire le labyrinthe qui va être dans la pyramide. Et on va faire passer ensuite un explorateur dedans. Et il faut le construire de la façon, en fait, donc avec des tuiles qui sont carrées et qui représentent différentes formes de dédales. À chaque tour, on pioche une carte qui dit quelle tuile on va devoir poser sur son plateau, de 5 cases par 5 cases. Et le but, c'est de construire donc le plus grand dédale possible où l'explorateur va, depuis l'entrée, explorer. Et il faudra qu'il passe aussi à côté de chambres dans lesquelles il y a des scarabées.
D'accord.
Voilà, les scarabées étant les trésors. Et alors, ce que j'aime bien, c'est que tu choisis, en fait, quand tu poses une tuile qui a un scarabée, c'est toi qui choisis si tu veux ou pas qu'éventuellement il te rapporte des points de victoire en fin de partie. C'est une sorte de pari, quoi. Tu dis, ok, celui-là, je pense que je vais vraiment réussir à passer à côté de lui.
Mais j'ai pas compris, on construit tous le même labyrinthe ou on a chacun.
Non, chacun plateau, construit sur son plateau son labyrinthe. Un peu comme Take It Easy ou Cities qui était sorti il y a quelques temps. Il n'y a pas beaucoup de jeux qui sont comme ça. Moi, j'aime bien. Ou c'est un peu comme Streams, hein. C'est chacun joue sur son truc. Il n'y a pas d'interaction, mais moi j'aime ce côté, je tente de construire le plus beau labyrinthe, donc je fais les paris, je me dis ok, telle tuile va arriver, je vais pouvoir faire quelque chose de sympa. C'est pas toujours le cas. Hier, mon gamin, c'était le drame pour lui parce qu'on n'avait pas pioché la bonne tuile qui lui manquait pour qu'il aille chercher je sais pas combien de 10 points ou de victoires de plus. Bah voilà, ça fait partie de ces jeux où faut apprivoiser le hasard un petit peu, essayer d'optimiser. Ah. J'ai bien aimé, c'est en plus ce genre de jeu, enfin je suis pas sûr qu'il sera dispo en France. Voilà, c'est le petit c'est pas un jeu du siècle, mais c'est un jeu que je suis content d'avoir ramené quand même, parce que déjà je me suis dit sinon j'ai rien à ramener pour les gamins, et tu sais le premier truc qu'ils font, c'est ils regardent dans les jeux que tu ramènes ce que t'as ramené pour eux, quoi.
Ouais, parce que moi j'ai ramené Piquebert. On peut peut-être passer à ça. Je vais faire la liste de ce que j'ai ramené, et puis je sais pas, on doit avoir des trucs, voilà. Alors le premier jeu que j'ai acheté, c'était Fields of Glory, le jeu de Martin Wallace, parce que c'est du Martin Wallace et que c'était un jeu pas cher, il était à 12€, donc je suis faible et j'ai acheté Fields of Glory.
J'ai lu la règle du jeu, ça a l'air pas mal du tout.
Oui, mais oui. Je troll un peu en disant que je l'ai acheté que parce qu'il faisait 12€, mais non. Voilà. Un jeu à deux d'affrontement. Par contre, je pensais qu'il n'y avait pas beaucoup de texte sur les cartes. En fait, il y en a pas mal. Hein.
Ouais, mais j'ai pas regardé encore. J'ai pas décellophané mes cartes. J'ai pas regardé le texte qu'il y avait dessus. Ça se trouve, c'est pas très important.
Non, mais bon. Deuxième jeu que j'ai acheté, c'était Lewis et Clark. En fait, il y a deux jeux que j'ai vraiment apprécié, que j'ai testé vraiment apprécié sur le salon. C'était Lewis et Clark et Space Cadet Dice Duel. Et Lewis et Clark, je trouve que il y a un vrai thème, il y a des vraies mécaniques. C'est entre le jeu de course et le jeu de gestion. C'est-à-dire que tu vas avoir des matières premières que tu vas transformer en autres matières premières que tu vas utiliser pour te déplacer. Et tu te déplaces avec des cartes. Et les cartes, il y a une partie hand management, card driven, parce que les cartes vont te servir à utiliser tes matières premières. Enfin, tu vois, c'est un jeu assez riche, pour produire d'autres matières premières ou te déplacer. Enfin, et ça reste un jeu de course. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est quand même d'arriver le premier à la fin. Donc c'est assez, assez marrant, bien fait, avec un thème fort encore, la découverte de l'Amérique par Lewis et Clark. Alors pas la découverte de l'Amérique comme Amerigo Vespucci, mais l'exploration en fait de l'Amérique d'Est en Ouest.
Il est sur ma liste d'achat. Tu m'as convaincu, il est sur ma liste, je vais acheter en France dès qu'il va redevenir dispo.
Oui, puis c'est les Ludonautes, donc ça sera facilement trouvable.
Ouais, voilà.
Space Cadet Dice Duel, ça c'était aussi un autre petit coup de cœur. Alors c'est pas des gros coups de cœur, c'est pas quand tu il y a eu des fois tu dis ah c'est super, j'ai super envie. Là c'est des bons jeux, enfin tu as envie d'y jouer, mais c'est pas Space Cadet Dice Duel. On en a parlé, c'est du temps réel. Je lance une brouette de dés, beaucoup de communication, beaucoup de chance aussi, beaucoup de coordination. Parce que il faut quand même arriver à rouler bien les dés, mais il faut surtout regarder ce que fait ton coéquipier, regarder là où t'en es, et puis j'ai une idée, je vais piquer mes figurines de Star Wars X-Wing pour remplacer les figurines moches, et ça va être vraiment géant comme partie de Space Cadet. Et puis, Pique-Bear, parce que Pique-Polar-Bear, parce que j'avais pas Pique-Dog ni Pique-Pig, et Pique-Averna, en blind, parce que j'aime vraiment beaucoup
Agricola.
Agricola, j'aime beaucoup les fermiers de la lande, j'aime beaucoup l'Agricola 2. C'est encore différent, j'ai lu la règle, c'est plus simple parce que au niveau comptabilité, tous les animaux ont ont le même prix, enfin, te rapportent un même nombre de points. Tu peux tous les manger, t'as pas de four, tu vois, tu peux les bouffer au fur et à mesure. Ils te rapportent 1, 2, 3 points de nourriture. Attention, on ne mange pas les chiens, on peut manger
Oh.
les ânes, mais pas les chiens.
C'est pas fait pour le marché asiatique.
Et puis il y a un thème qui est plus sympa, c'est exploration de cavernes, c'est plus sympa, je trouve. Non. Donc à tester, mais bon, moi c'est le truc, c'est ma petite folie du moment. À noter que j'aurais bien ramené Firefly, qui était complètement en anglais, mais ça je sauterai dessus quand il arrivera. Et puis Chitty Mage, le dernier CJ Canaille, et j'espère qu'il sera en français aussi. Parce que bah, ça m'a bien dit, mais il y a du texte, donc non.
Ouais,
On
j'ai fait
balance.
pareil, Dédé Chute l'a pris et j'ai hésité du coup à aller le prendre, Chitty Mage, bah le dimanche en fin de salon.
Ouais.
Et puis j'ai vu le texte qu'il y avait sur les tables de démo et j'ai dit ah bah non, parce que du coup ça va réduire mes possibilités de le sortir avec les enfants quoi.
Ben c'est ça, tu vois, c'est exactement ça. C'est ce que j'ai pas fait, ce que j'ai pas fait, c'est de le prendre, quoi. Ça aurait été le dernier jeu du salon. Et toi alors?
Qu'est-ce que j'ai ramené? Bah, Field of Glory aussi, comme toi, hein, parce que c'est Wallace, tout ça, et ce genre de jeu d'affrontement à deux, enfin, moi, ça peut m'intéresser. J'ai ramené Palmyra de Eisenstein chez Iron Games, donc en auto-édition, parce que j'aime beaucoup ce que fait Eisenstein, j'aime beaucoup son Péloponnèse. Pas encore testé, c'est un jeu de pose de tuiles. J'ai lu la règle, il faut tester. Il n'y a pas le choix, il faut tester parce qu'on peut quand même faire des coups. A priori, on va pouvoir jouer plusieurs tuiles d'affilée, etc. Donc je pense que ça peut être un jeu assez violent, assez surprenant. Donc je testerai ça rapidement. Bon, j'ai présenté ça à Totonica parce qu'il était à 10 € et que tout le monde en dit du bien.
Ouais, c'est un jeu excellent avec une dynamique de jeu, de pause et de retrait. Tu cherches à te faire expulser de la route pour avoir un bonus et te mettre ailleurs en fait. Moi,
D'accord.
c'est vraiment un truc original et qui m'a vraiment, vraiment, vraiment plu comme jeu.
Bah, je le mettrai peut-être au menu de jeudi soir. Après, bah, j'ai acheté donc bah, le labyrinthe du pharaon, j'en ai parlé. Yokai no Mori, c'est le Let's Catch the Lion. Et puis, comme le stand de Indie Board Game était pas loin du stand Yellow, j'ai fait un saut rapidement le dimanche. Je leur ai pris Avalon, qui est la version de résistance revue et corrigée. Qui était sorti l'année dernière et que j'avais hésité, j'avais peur que ce soit trop proche de Résistance, mais finalement les échos que j'en ai c'est que c'est vraiment mieux, donc bah du coup j'ai craqué.
Ouais, Thomas Provost nous en avait parlé.
Ouais, Thomas Provost en a parlé, je sais que Maël est fan, donc j'ai voilà, je me fie à leurs avis, j'ai pas trop de soucis là-dessus. Et puis dernier truc, j'ai hésité sur les extensions Flashpoint, j'ai quand même finalement pris Extreme Danger, notamment parce que ça fournit une boîte et que
Quoi?
l'air de rien la boîte de base de Flashpoint plus toutes les extensions ça commence à déborder, donc ce sera l'occasion de mieux ranger mon matériel.
Ah, bravo. Et est-ce que t'as eu des goodies, toi?
Et je crois que j'ai à peu près les mêmes que toi, je vois que t'en as noté d'autres. Moi les goodies c'était l'extension pour Keyflower, la Key
Qui
Celeste
céleste?
qui était gratuite en faisant bout chez Gigamic, ça c'était cool. J'ai récupéré, c'est pas une goodies, les tuiles de Myrmès de correction. Et
Ouais.
puis c'était quoi? Et puis les cartes de Myst and Mystique, bien sûr.
C'est ça.
Voilà. Toi, j'ai vu que t'as eu d'autres choses en plus.
Ouais, mais c'est des petites conneries. J'ai eu des badges pique-plume. Ils ont donné sur le stand de. Ça devait être Zor.
Pour
Et
remplacer le petit
puis.
corbeau.
Pardon? Oui, non.
Avant,
Alors
c'était le
ça,
petit
c'était Abba,
corbeau.
ça. Et pour remplacer le petit corbeau de Abba de
Ah
l'année
oui.
dernière ou de l'année avant, des cubes, la danse des œufs. Vert, enfin voilà, c'était une
C'est
petite
des œufs
connerie.
cubés, plus cubiques, c'est ça? C'est
Non,
plus facile à
c'est
ranger.
ceux que tu lances, et donc tu les lances, il faut danser, il faut tourner autour de la table, il faut
Ouais.
servir à des gages en fait. Bon, c'est un support publicitaire, hein, donc voilà.
Ouais, mais c'est une des meilleures ventes d'abord, hein. Normal.
Ok, les jeux que tu as testés outre Labyrinthe du Pharaon?
Bah, il y avait un truc qu'on a testé à l'hôtel à la fin du jour 3, je voulais en parler, c'est la nuit des loups-garous, je sais pas comment ça
Ouais.
peut aussi Ultimate Werewolf. Bah,
Non, non, c'est une nuit des. Merde, c'est pas des morts-vivants.
des loups-garous.
C'est une nuit des loups-garous, en fait.
Ouais, mais parce qu'a priori, il y a une autre version qui arrive. Parce qu'en fait, Fundwell a acheté sur le salon, il a craqué comme ça, on passait dans une allée, puis t'as coup, ah, oh, il me le faut absolument.
Un truc improbable.
Ouais, une petite boîte, je crois que c'est chez Bézier Game, la maison d'édition de Telaspage qui fait Suburbia, tout ça.
Ouais.
Et donc, en fait, mais il l'aime bien parce que c'est en gros, c'est quelques cartes seulement des loups-garous tiers le, il l'a payé plus d'une dizaine d'euros, en fait. Sinon. Mais bon, ils ont un petit graphisme 8 bits, alors voilà, enfin, j'irais 16 bits, mais quand même assez pixelisé, c'est du pixel art. Après, donc, le jeu, par contre, est très bon, hein, puisque c'est les loups-garous avec un concept novateur, c'est que, en fait, ça se passe qu'en un tour, les loups-garous ne tuent personne. Dans la nuit, ils se repèrent juste en début de partie. Et en fait, après, les joueurs vont discuter et décider qui est-ce qui est un loup-garou et qui est-ce qu'ils vont exécuter. Si c'est un villageois, c'est les loups-garous. Enfin, si c'est un villageois qui meurt, c'est les loups-garous qui gagnent. Et si c'est un loup-garou qui meurt, c'est les villageois qui gagnent.
D'accord. Voilà.
C'est le seul défaut du jeu par rapport à du résistance, c'est qu'on parle sur, au départ, la discussion, elle démarre sur pas grand chose, sur j'ai entendu un bruit, ou vaguement, ou etc. Ou tiens, c'est bizarre, cette partie, tu dis pas grand chose, d'habitude tu parles, mais il n'y a rien de factuel sur lequel se baser.
Ouais, mais ça, de toute façon, ouais. Enfin, si ça dure qu'un tour, forcément, t'as pas la profondeur.
Ouais, tu vas avoir, mais c'est l'avantage de durer 5 minutes, quoi.
C'est ça. T'as l'avantage de ses inconvénients, tu veux dire.
Ouais, non, mais c'est bien, du coup, on a fait deux parties, quoi. Voilà, c'est juste, voilà, c'était histoire de passer le temps. Je crois que pour l'instant, toi, tu montais le podcast, donc. pendant qu'il y en a qui bossent. Voilà. Et puis, juste, je voulais dire aussi que Dédé Chute, finalement, il a acheté son retour. Il a acheté Shiprise, qu'il avait. Sur lequel il avait un avis plutôt mitigé le premier soir. Et ben, en fait, dimanche, il l'a quand même acheté parce qu'il s'est dit, bah ouais, mais par rapport à tout ce que j'ai testé d'autre, bah finalement, il est pas mal, ce jeu-là. Donc. Paradoxalement, on juge, en fait, je m'aperçois que chaque année, on se fait avoir. Faut pas acheter des jeux le jeudi et vendredi. Faut vraiment attendre le samedi pour avoir un avis plus, faire une meilleure opinion de ce qui est bon, ce qui est pas bon et de ce qui est sorti, quoi.
Ouais, puis en plus, c'est ce qu'on se disait le premier jour. On a peut-être moins le problème d'explication des règles parce que
ouais.
les démonstrateurs ont peut-être un peu plus de l'habitude. Expliquer
ils sont
les
rodés,
jeux,
ouais,
un
clair.
Peu plus de connaissances du jeu et ça se passe peut-être un peu mieux. Ok, bah oui, bah voilà. Voilà. Donc moi, j'ai testé Dice Duel que j'ai bien aimé, que j'ai ramené, Spaceship, et que je trouvais trop dur et que c'est plus un casse-tête qu'autre chose, Time and Space, qui n'était pas pour moi, S Evolution, qu'on n'a pas trop aimé. Lewis et Clark que j'ai ramené. Les trois petits cochons à Baba Yaga qui sont, pour le premier, plutôt vraiment bien. Et pour le deuxième, à retester. Going Gone, voilà. Ouais. Enfin, mon soupir parle de lui-même. Professeur Lubeck, bof. Bruxelles, grosse première impression, mais je l'ai testé en fin d'après-midi et trop de choix. Trop de possibilités, il faut vraiment que, là c'est clair, il faut vraiment que j'en refasse une avant de savoir si je l'achète ou pas, quoi. Trends and Stations qu'on trouve un peu daubé, mais ça c'est notre avis, si vous l'avez acheté et que vous l'appréciez, tant mieux pour vous. Squeeze, est-ce que c'est un jeu d'ambiance drôle ou pas, je dirais non, mais ça n'engage que moi. Hein,
je partage ton avis.
Ok, Inomori, je l'ai mis, mais parce que je trouve que c'est vraiment un jeu sympa. Le Shogi, c'est un excellent jeu et c'est un peu comme Hive, en fait. Ah oui, tiens, j'ai ramené aussi l'extension de la petite Hive. Et ça me rappelle un peu ça. C'est facile, pas un gros truc, c'est appréhendable. Armadora, qui est pas un jeu pour moi, mais voilà. Sim Park que je resserrai à Cannes et puis l'Aéropostale que je resserrai aussi parce que au niveau de
en bonne condition.
On n'a pas eu assez de règles pour pouvoir le tenter. Et puis toi, je crois que t'as quelques autres jeux que t'as testé. Enfin, t'as d'autres avis ou pas?
Non, globalement, bah, les jeux que j'ai testés, ben voilà, ils sont dans ta liste.
Okay.
Après, il y a des jeux que j'avais hésité à ramener. C'était Francis Drake, par exemple. Qui est une grosse boîte, qui est un jeu qui a été kickstarté, enfin, ça devait être vendu une soixantaine d'euros. Bon, les avis, a priori, sont pas mauvais, c'est pas le jeu du siècle non plus, c'est encore une fois pareil, donc j'ai hésité, et bref, finalement, j'ai pas pris, parce que vu la taille de la boîte, vu le prix, finalement, si c'est pour faire deux parties et être déçu, ou pas plus, bah plus maintenant, quoi, j'ai pas envie de m'embêter avec ça.
Mmh. Non, c'est clair.
Voilà, donc au final, bah, j'ai ramené tellement peu de boîtes que dans ma valise, J'avais ouvert la boîte de Yokai no Mori pour y coller les stickers, mais du coup, dans le transport, ma valise qui est trop grande pour le peu de jeux que j'ai ramené, bah, la boîte elle s'est ouverte, les jetons, les pions, ils ont volé partout pendant tout le trajet en avion, je pense. J'aurais jamais pensé que ça m'arrive à un Essen de revenir avec une valise aussi vide.
Ouais. Pars avec une femme et tu verras déjà les valises elles seront un peu plus remplies.
Ouais, tu peux dire aussi que du coup t'as deux valises donc tu peux en acheter plus sur place, mais au final tu vois.
Non, croisant mon expérience, en fin de compte, tu te demandes pourquoi t'as quand même moins de place. Bon, bref. Et le classement Fairplay alors au final?
Alors au final, Concordia a été en tête pendant pas mal de temps et au final le dimanche soir, c'est Russian Railroads qui est passé juste devant.
Ouais.
J'ai pas le nombre exact de votes, etc. De toute façon, je rappelle, hein, ça joue sur quelques dizaines de votes seulement par rapport aux dizaines de milliers de visiteurs qui viennent. Mais le trio, c'est Russian Railroads, donc un jeu en 18XX qui paraîtra chez Philosophia, que ça je vais acheter, c'est sûr, dès qu'il sort, mais je me suis pas rué dessus en Allemagne puisque il y avait pas de besoin. Concordia, qui est le jeu de McGertz, qui est un jeu de commerce. Donc j'ai eu de très bons échos par tous ceux qui l'ont testé, donc la plupart l'ont ramené. Il était en sold out malheureusement dimanche matin quand j'ai voulu le prendre, donc celui-là ça y est, il est déjà commandé, j'ai pas traîné. Et puis la route du verre, qui était donc le nouveau Rosenberg aussi, qui utilise un système de double roue un peu à la Aura et la Bora. C'était Johan Levet, je crois que tu as interrogé, ouais. Et qui disait que ça avait l'air très très bon. Bon, on verra après. Après, on vous a pas encore mis l'interview de Thomas Provost en ligne, mais moi je partage un peu son avis. Au bout d'un moment, va falloir que les jeux allemands maintenant, si c'est juste de la mécanique bien huilée, ça me laisse un peu de marbre, quoi. J'attends un peu plus d'un jeu, j'attends qu'on puisse un peu plus s'impliquer dedans.
Ouais, enfin, moi ce que m'inspire le Fair Play Scout, c'est que en fin de compte, c'est des gens qui cherchent du cube en bois, quoi. Tu vois, ouais. on aurait pu voir dans le Fair Play Space Cadet, quoi.
Bah carrément, je suis étonné parce que d'habitude, moi, quand je vois la plupart des Français, la plupart des gens avec qui je parle, ils m'ont tous ramené dans leur sac, quoi. C'est un jeu qui avait déjà bien buzzé à la Gen Con, c'est pour ça que je l'avais identifié. Au final, c'est peut-être moi qui suis le plus déçu parce que moi, j'ai pas craqué, ça m'a pas fait le. Je sais pas. Je me suis dit, c'est bien, je vais y jouer trois fois et j'y jouerai plus, donc je n'achète plus. C'est le genre de truc. Mais bah. C'est vrai qu'on se retrouve pas avec les jeux, même Rampage est pas là, je pense que Rampage a quand même bien marché. Il était sold out. Le dimanche, il a fini en sold out en fin de salon. Il leur restait quelques dizaines de boîtes, moi, quand je suis passé les voir vers 16h, donc tu vois.
Ouais, c'est pas mal.
Voilà. Donc après, à voir. Enfin, moi, j'avais un sentiment, bah, c'est ce qu'on a un peu dit à la fin du débrief du jour 3, et qui finalement, j'ai retrouvé dans pas mal de débriefs d'autres Français qui sont rentrés depuis, dont Trick Track d'ailleurs, qui est que le salon marque, on va dire, l'émergence des éditeurs francophones et des Français en général. Il y a beaucoup de Français sur le salon. Beaucoup de. Et au niveau des éditeurs français, une vraie innovation. Enfin, on n'est pas juste dans du truc froid avec des mécanismes bien huilés. On est avec en plus un thème fort et qui marche, qui est équilibré. Je pense à Rampage notamment. Je pense qu'on est entre les deux. On est entre l'école américaine et l'école allemande et c'est ce qui va plaire au public. Est-ce que ça plaira aux Allemands? Je ne sais pas. Mais en tout cas, le public français, oui.
Ouais, enfin, pour moi, Rampage, c'est typiquement la French Touch, quoi. C'est comme la Vallée des Mammouths en son époque. Alors juste, je reviens 30 secondes sur le Fair Play. Il y a le BGG, je ne sais comment il s'appelle, le classement BGG, dont on n'a pas parlé, le Geek Buzz. Et moi, j'ai... Enfin, c'était intéressant de passer devant, mais c'est très volatile en fait. C'est beaucoup plus, ça change beaucoup plus que le fair play. Et c'est pas du tout la même chose, parce que comme c'est sur BGG, c'est un peu différent. Alors, je sais pas si on peut trouver les six
billets
encore. Il y a quoi dedans, les trois, quatre premiers?
Alors, le premier, c'est Amerigo. Alors, l'année dernière, je rappelle que c'est Escape, donc, qui était déjà un jeu chez Queen Games. Mmh. Et n'empêche que donc là, c'est Amerigo qui a fini en tête. Après, attends, parce que je suis sur une page qui récapitule en fait les votes de tous les différents classements. Attends, là, hop, j'ai le vrai Geek Buzz. Donc, 1, Amerigo. 2, c'est Bruxelles édition 93.
Ouais.
Comme quoi, tu vois. En 3, c'est Tashkalar, qui est le nouveau Quatil, qui a pas fait bonne impression. Moi, les gens qui l'ont testé ont tous été déçus, quasiment. J'ai quand même vu 2-3 personnes qui le trouvaient bien, mais... Donc on voit que c'est vraiment pas la même population. Ouais. En 4, on a Twin Teen Bots, qui est le jeu de Phil Kaert chez Flatline Games.
Non, mais qui a peut-être eu un écho plus important aux États-Unis, puisqu'il a, c'est un Kickstarter, donc.
Ouais, il y a autre chose, c'est que leur stand, il est juste à côté, il était pas très loin du stand BGG, donc ça se trouve, tu vois, les gens, ils ont joué, tu leur dis, allez voter, c'est juste à côté, et puis voilà, quoi. Et puis juste le cinquième, c'est Romolo et Remo, donc un jeu chez Jokix, un jeu italien. C'est pareil, les Ludochon m'ont dit qu'ils avaient eu une bonne impression sur ce qu'ils avaient joué. Moi, après 2 ans où j'ai acheté des jeux chez eux, chez cet éditeur, et à chaque fois, en fait, sur le salon, ça me plaisait. Et au final, quand j'ai joué chez moi, j'ai été déçu parce que je me suis aperçu qu'il y avait des déséquilibres quelque part, enfin que le jeu, il manquait un petit réglage en plus, une petite, un petit niveau, tu vois, que l'éditeur aurait dû voir et aurait dû demander à l'auteur de retravailler pour faire un jeu qui soit finalement nickel. Donc je regarde même plus chez eux, quoi.
Donc une autre liste, voilà. Au final, je me sens encore plus perdu de. Tu vois, ça donne des idées, mais bon, après il faut.
Après il y avait encore un autre site allemand, le Hall 9000, mais j'ai pas regardé ce qu'ils avaient, noté. Bah ouais, hein. C'est vrai que. Enfin, je sais pas, Trick Track par exemple pourrait avoir post-salon, je dis pas à faire sur le salon, on s'en fout du buzz du salon, mais post-salon, que les gens puissent aller poster qu'est-ce qu'ils ont testé, qu'est-ce qu'ils ont bien aimé,
ouais.
Qu'on puisse voir quelle est la tendance en France, parce que c'est vrai qu'à mon avis, on n'a pas du tout les mêmes impressions. Déjà, on va pas tester les mêmes jeux, et ensuite, ouais, on n'a pas du tout les mêmes feelings que les Allemands.
Ok, mais tu parlais, j'étais un peu. Je voulais absolument ne pas parler que. Du fair play, parce qu'effectivement, c'est notre référence,
ouais.
Mais il en existe d'autres. Et puis donc, pour conclure sur le salon, effectivement, ce qu'on peut noter, c'est la prédominance des Français. Et tu parlais des éditeurs. Je dirais, il y a les éditeurs, il y a les auteurs. Antoine Boza qui fait des jeux avec Eric Lang, enfin qui est en train de préparer des jeux avec Eric Lang. Des illustrateurs, comme Pierrot, ouais. Qui travaille pour c'est Mattel.
Ouais, c'est ça.
Mattel avec la Forêt Enchantée, des joueurs, plein de joueurs. Enfin, ça parle français dans tous les sens.
Jeudi, vendredi. Pour avoir été sur le salon Yellow, c'était très net. Jeudi, vendredi, beaucoup, beaucoup de Français. Ouais, parce que déjà, je pense que la plupart font le déplacement. Quitte à faire le déplacement, ils viennent les 4 jours. Et alors que après, par contre, après samedi, dimanche, c'était beaucoup plus orienté allemand. Mais c'est normal.
Il y a des autochtones, tu veux dire.
Ouais, voilà, c'est ça. Mais ouais, c'est très français, hein, j'ai vu. Même si finalement, je m'aperçois sur Twitter, sur machin, ah bah, il y en a plein qui font leur compte rendu maintenant, et tu te dis, ah merde, c'est bête, j'aurais bien voulu les rencontrer, et puis on s'est raté, quoi. Mais c'est tellement grand, il y a tellement de monde, c'est normal aussi.
Ouais, c'est un peu. C'est très compliqué, en fait. Vraiment, que si on veut pas se rater, il faut vraiment se donner un point de rendez-vous, et puis s'y tenir, et même pour y arriver en temps et en heure. Alors.
Bah, il faut faire un rendez-vous sur un pot d'un éditeur, quoi.
Ou ça. Mais tu l'idée toi-même, c'est déjà plus facile, de se déplacer dans le salon, d'arriver à l'heure à nos rendez-vous.
Ouais, alors, ça, j'ai trouvé ça très très bien.
C'est la contrepartie de. J'aimais bien ces petits halls qui étaient. T'avais le hall 9 qui était destiné aux petits éditeurs. T'avais les gros halls 11 et 12 où t'avais des off-vendeurs, où t'avais les vraiment gros, quoi. Et puis là, bah, t'avais le hall 3, et le hall 3, au début du hall 3, t'avais le repose prod, et puis à la fin du hall 3, t'avais des petits éditeurs, c'était plus t'avançais dans le hall, et plus le truc changeait. Et moi, je trouve que c'était mieux avant. Et surtout qu'avant, il y avait des toilettes partout. Voilà, maintenant plus. C'est même Rainer Knizia le dit, donc.
Même Rainer Knizia sur Twitter, il a dit qu'il n'y avait pas assez de toilettes. Ouais. En fait, j'ai l'impression qu'il y avait quand même plus de toilettes. On va pas refaire le débat, mais j'ai l'impression qu'il y a plus de toilettes et qu'elles étaient plus petites. Donc
ouais,
forcément. Au niveau des halls, je pense qu'ils ont fait une erreur. C'est de le hall 3, ils auraient pas dû le finir avec que des petits stands, mais ils auraient dû laisser que des gros éditeurs, quoi. Ils auraient dû faire en sorte que les gros remplissent jusqu'au fond du hall 3. Ça faisait bizarre, ouais, ce grand hall. Mais par contre, effectivement, ce que j'ai apprécié, c'est que on pouvait faire le tour du salon très facilement. Moi, sur le stand de Yellow, il y avait un gars, il y avait Ivan, qui venait des États-Unis, qui a bossé comme un taré sur le stand tout le temps. Et le dimanche, je lui ai dit, si tu veux, là, tu prends ton heure de pause et on va faire un tour du salon. Je te montre comment c'est le salon des Sun. Et du coup, en une heure, on a pu tout faire. Je lui ai montré le GN, je lui ai montré les comics, je lui ai montré les occasions. Voilà, on a vu un peu tout, on a fait le grand hall, on a tout fait en une heure. Bien sûr, quand je dis tout fait, c'est-à-dire qu'on s'est promené un peu partout, on n'a pas tout vu, mais il a trouvé ça très intéressant. Et en fait, il me disait que la Gen Con, c'est plus petit. finalement.
Ouais, et c'est Antoine Boza qui disait que, ou Bruno Catalogue, il disait que y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de tables et qu'il y avait un côté éditeur et un côté jeu.
C'est-à-dire que, ouais, c'est ça. Là, un c'est côté mélangé. Vendeur et un côté test.
J'ai trouvé qu'il y avait peut-être, enfin, j'ai eu l'impression qu'il y avait plus de tables que l'année dernière, qu'on peut plus jouer que l'année dernière. Mais avec le samedi et dimanche, c'était vraiment très compliqué.
Il y avait 10% de surface en plus, en fait, alors qu'on n'en avait pas l'impression, mais c'est énorme, en fait, 10%. Donc, effectivement.
Et il semblerait que la Gen Con, tu viens pour jouer, surtout pour jouer.
Donc, ouais.
C'est autre chose. Et puis, bah, voilà, une année en demi-teinte. Alors, pour moi, personnellement, une super année parce que j'ai retrouvé tous mes copains de la Proxy Team et que c'était super sympa. On n'habite pas dans la même ville, on se parle par Skype. Dédé, je le vois rarement. J'étais content de passer du temps avec lui. J'étais content aussi de revoir les gens que je revois tous les ans à Essen. Alors c'est un pèlerinage. Hein, puis la vie fait qu'on est aux quatre coins de la France et que bah, c'est sympa de revoir les gens. Et par contre, au niveau du jeu, pas de vrai bout comme Rabbit Hunt.
Non, peut-être qu'on les a évités.
On s'est plaint un peu de... Ouais, mais attends, il y a eu des années, c'était terrible. Mais là, c'était des deux côtés. Il y a des bons jeux, pas de vrais coups de cœur, mais pas non plus de vrais, vrais, vrais daubes comme il y a eu certaines années.
Ouais. Au niveau éditeur, j'ai oublié de mentionner, mais un fait important quand même, c'est que l'Europe de l'Est, elle est de plus en plus en force. Elle était dans le hall 1 cette année, donc rôle petit éditeur, mais très présent, beaucoup de Polonais, beaucoup de un peu tous les pays. On va en voir certains qui vont monter en puissance sans doute au fil des ans. Je leur reprocherai peut-être, mais c'est dû sans doute à l'histoire, et puis parce qu'ils se lancent dans le jeu. Ils vont beaucoup piocher pour l'instant leurs thèmes sur des thèmes guerriers, et puis dans leur histoire proche, ou l'histoire un peu traumatisante des blocs soviétiques et autres.
Comme dans Stronghold, tu veux dire ?
Ouais, mais même, ouais, il y a un autre jeu, en fait, qu'on a raté, qui était chez G3, qui est un jeu polonais, qui est, au fait, je crois, t'es dans un sous-marin, et tu dois, c'est un jeu coopératif, tu dois tenir 7 jours, ou un truc comme ça, dans un sous-marin.
C'est U-Boat Alarm?
Non, c'est, je sais plus quoi. Mais en fait, il faisait pas envie, et en fait, c'est après, j'ai vu des gens qui ont posté, qui ont dit qu'ils avaient joué, que c'était pas mal. Et quand je suis retourné voir la fiche du jeu, je dis, ouais, mais non, on est passé à côté, mais moi, un truc avec un, c'est pas U-Boat Alarm, mais c'est un truc pareil, enfin, c'est un truc très guerrier, la fiche, c'est pas ça que nous, on cherche, quoi. On cherche des thèmes un peu plus sympas quand même, sans que ce soit des binous-ounours.
Ouais, c'est comme, sur le stand de, là où il y avait Mare Balticum. Il y avait Koleshka, ou je sais pas comment on s'appelle ce jeu, mais c'est le jeu où tu fais la queue.
La queue en Pologne, oui.
Ouais, et en fait, j'ai parcouru le livret de règles, qui est aussi un livret où il t'explique le rationnement en Pologne, quand est-ce qu'il y a eu le rationnement, à quoi ça servait, les différents magasins, qu'il y avait des magasins avec des rideaux jaunes, et que les mineurs étaient, avaient des... Le rationnement, c'était pas seulement pour dire on a peu, donc vous venez chercher chacun votre tour, c'est aussi des magasins. Les tickets de rationnement étaient réservés à certaines personnes, entre guillemets, privilégiées. Enfin, c'est très intéressant. Maintenant, je ne sais pas du tout ce que vaut ce que vaut le jeu. Tu n'as
pas craqué pour le jeu.
Non, non, non. Non. Après, les enfants, on va faire la queue.
Ouais, c'est un super. C'est un super. Ben voilà, c'est ça. Je trouve qu'au niveau des thèmes, bon, y a peut-être encore un peu à bosser. Mais bon, voilà. Et sinon, sur le plan humain, c'est clair que je m'aperçois qu'au fil des ans, ça fait maintenant un peu plus de 2 ans qu'on fait Proxy Jeux, et donc ça fait 3e édition d'Essen où on fait Proxy Jeux. C'est super sympa de voir petit à petit que la team grandit, et maintenant on fait des débriefs carrément à plusieurs les soirs. Enfin, moi, c'est super sympa. C'est vraiment enrichissant et très agréable, je pense, pour tout le monde,
ouais,
même pour vous, les auditeurs.
Vous avez été nombreux à nous interpeller cette année. Autant, même, tu vois, la première année, il n'y avait que Dédé, bon, ok.
Dernière, c'est normal, on avait 6 mois.
On a croisé, je me souviens avoir croisé des gens avec un t-shirt de l'apéro du capitaine. Ah, j'écoute ça. Et le gars, il me dit, ouais, moi, je vous écoute aussi. Ah, d'accord, c'est cool. Et là, la personne qui nous a expliqué, Lewis et Clark, nous écoutait. On a vu très nombreuses fois, on a échangé très nombreuses fois avec des gens qui nous ont dit... nous écouter, donc c'est super sympa. Et puis c'est, ben voilà, comme je l'ai dit déjà la dernière fois, on se parle pas entre nous, on parle à des gens, donc c'est bien d'avoir un retour aussi. Et puis SoundCloud, c'est top.
Ouais, je vais mettre maintenant les MP3 en ligne sur le site aussi, enfin ouais. Pour qu'ils puissent apparaître sur iTunes, et puis ça sera bouclé comme ça.
Voilà, et puis puisqu'on parle de ce qu'on va faire, on a au moins trois interventions, enfin trois interviews. Il y a l'interview de Jerry Hawthorne, l'auteur de Basin Mystics, qu'on va mettre en ligne. Ça a demandé un peu de préparation. Il y aura deux versions. Il y aura la version anglaise, et puis je vais essayer de faire une version traduite. Donc ça va me prendre quelques jours. On a échangé avec les gens qui ont fait Time Masters. C'était intéressant parce que ils ont utilisé plein de choses, plein de médias pour booster leur jeu. Ils l'ont mis sur BGA. Ils sont en train de faire un ululé, on vous le rappelle. Donc si vous voulez les aider et puis béquer pour eux, n'hésitez pas, c'est Time Masters. Puis c'est paru en print and play. Et puis la dernière intervention qui est très très intéressante, c'est celle de Repose Prod. On a eu la chance de pouvoir discuter près d'une heure, enfin 45-50 minutes avec Thomas Provost. On a parlé de l'actualité de l'éditeur, mais on a échangé, on est allé un peu plus loin, j'ai l'impression. Et c'est ça qui est super intéressant. On a parlé du jeu en général, ce que disait Jérémy. Voilà. Donc, on vous mettra ça en ligne dans les prochains jours. Et puis, n'oubliez pas, le 23 novembre, on va discuter avec Martin Wittberg. On va enregistrer avec lui numéro 50. Et puis, j'espère peut-être que si on arrive, ce sera en live. Mais ça, je touche du bois. Et puis, c'est les secrets de la technique. Il va falloir
s'organiser un peu. Ouais.
Ouais, voilà. Mais ça sera intéressant de pouvoir poser des questions, de pouvoir un petit peu plus d'interaction que quand on est tous les deux, et voilà.
Voilà, Martin, si tu nous écoutes, n'oublie pas de m'envoyer tes horaires de train, qu'on puisse planifier ça correctement.
Message personnel.
Non, on a échangé deux minutes sur le salon, voilà, sur les plages horaires intéressantes. Maintenant, il faudra valider ça, quoi. On voit bien 5 bonnes heures, hein. On va être bavard. Hein.
Voilà, donc on espère que vous aussi, vous avez passé un très bon SN. Pour ceux qui n'y étaient pas, on espère que les chroniques qu'on a péniblement mis en ligne tous les soirs ont été appréciées. Enfin, je dis péniblement, c'était pas pénible, hein, c'était sympa de vous faire plaisir, les quelques qui avaient du Wi-Fi à leur hôtel et puis qui ont pu partager avec vous ce qu'on avait pu glaner sur le salon. On a perdu 5 ans d'expérience de vie à cause de vous, mais ça c'est pas grave. Et puis voilà.
On avait galéré avec les wifi quoi pour envoyer les épisodes, effectivement. C'est pour ça que le jour 3 je crois a été publié que finalement dimanche soir quand on est rentré en France. Mais bon, l'essentiel c'est que vous ayez l'info.
Voilà, donc rendez-vous dans la première quinzaine de décembre. On vous parle avec Martin Wittberg des jeux de Noël, en fait, des jeux qu'on a envie d'offrir à Noël. C'est la thématique du prochain numéro, le numéro 50. On vous dit à bientôt, et en attendant, jouez bien.